Notre passage d'aujourd'hui se trouve à la page 753 de nos Bibles, 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 19. 753. Merci. 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'au verset 19. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes d'où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. S'il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Alors, la mort est un passage naturel de la vie. C'est ce qu'a déclaré l'acteur athée britannique Stephen Fry. Et que pensez-vous de ces paroles? A priori, elles sonnent justes, n'est-ce pas? Sans doute, la mort est un passage naturel de la vie. La plante de basilic dans ma cuisine est récemment morte. Le pigeon sur le bord de la rue aussi. Et mon lapin de compagnie. Nous savons tous que la mort... nous savons tous que chaque être humain mourra un jour. Mais quand on y réfléchit bien, la mort n'est pas du tout un passage naturel de la vie. La mort anéantit la vie. La perte d'un être cher peut être accablante. Des reportages sur une guerre ou un génocide peuvent nous font gémir. Si la mort est si naturelle, pourquoi nous est-elle si troublante? Pour nous, je pense que la mort est quelque chose à éviter à tout prix. Que nous soyons prêts à l'admettre ou non, nous faisons tout pour l'éviter. Sans film à voir avant de mourir, ou 500 lieux à visiter avant de mourir, la crème anti-rides, les smoothies sains pour la santé, l'assurance vie. Mais pour Jésus-Christ, la mort n'était pas à éviter. Sa mission, c'était de mourir. Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, est venu sur cette terre pour mourir. C'était un objectif assez bizarre, n'est-ce pas? Et pas du tout ce que nous aurions fait en tant qu'être humain. Jésus est venu mourir et vivre. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. Marc 10, 34. Il y a eu un être humain qui n'est pas resté mort. Jésus-Christ a changé à jamais le cours de l'histoire. Alors, 1 Corinthiens 15 est un chapitre tout entier sur la résurrection. Et c'est-à-dire une existence physique et corporelle après la mort. Et nous devons l'étudier afin de répondre aux questions difficiles telles que « La mort est-elle vraiment un passage naturel de la vie ?» comme a suggéré notre athée britannique Stephen Fry. Ou « La résurrection est-elle réellement possible ?» Et la clé à ces deux questions, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons trois points aujourd'hui et voici le premier. Les faits de la résurrection sont certains. Quels sont les enjeux lorsqu'on considère ces grandes questions? Paul nous dit qu'ils sont grands. Voyez les versets 3 et 4. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi reçu, aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu. » Donc c'est une question de vie et de mort, carrément. Si Jésus est réellement ressuscité, les faits de sa résurrection sont importants avant tout, verset 3. Et voyez la formulation de Paul. Au verset 3 et 5, il nous donne deux faits, suivis de deux confirmations de ces faits-là. Voici les deux faits. Christ est mort pour nos péchés et Christ est ressuscité le troisième jour. Donc, comment savons-nous que Christ est réellement mort? Il a été enseveli. Il était vraiment mort, on l'avait déposé dans un tombeau et le tombeau avait été scellé. Il a été enseveli. Comment savons-nous que Christ est réellement ressuscité? Il est apparu. Les gens disent souvent que la résurrection est impossible parce que les gens ne ressuscitent pas des morts. Cela contredit les lois scientifiques. Mais non, bien qu'elle soit peu probable, qu'est-ce qui empêche le Dieu qui a créé les lois scientifiques de faire une exception peut-être? Ici, Paul veut nous convaincre que même si la résurrection n'est pas normale, beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé. Le verset 5 continue. « Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Parmi les premières personnes à voir Jésus ressuscité, il y avait ses propres disciples. Bien sûr, ils connaissaient bien Jésus, ils savaient à quoi il ressemblait. Et de plus, cela prouve que Jésus n'était pas un esprit. Écoutez à comment l'un des témoins oculaires l'a décrit. Mais Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien, j'en ai. » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il en prit et mangea devant eux. Paul continue au verset 6. « Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Il serait tentant d'accuser ces personnes d'avoir eu une hallucination peut-être. Peut-être qu'ils ont imaginé que Jésus est ressuscité. Pourtant, 500 personnes l'ont vu à la fois. Nous savons qu'il y avait un corps physique et nous savons également qu'il est impossible que 500 gens ont vu la même chose à la fois. L'argument de Paul, c'est si Jésus ressuscité est apparu à ces gens, on peut leur demander tout de suite. Enfin, Jésus est apparu à Jacques et à Paul lui-même. Donc pourquoi est-ce significatif? Ces deux hommes étaient des personnages clés dans l'Église primitive. Jacques travaillait parmi les Juifs, tandis que Paul travaillait parmi les non-Juifs. Mais quelqu'un proteste, ils étaient des chrétiens alors, bien sûr qu'ils ont cru à la résurrection. Mais n'oublions pas l'histoire de Jacques et de Paul. Jacques était le frère de Jésus. Ils se sont connus depuis leur enfance. Paul, par contre, était l'ennemi de Jésus, qui s'est opposé avec violence à ses disciples. Conclusion, son frère le plus proche et son pire ennemi l'ont vu vivant et tous les deux disent que c'est vrai. Donc ça ne peut pas être une conspiration. Donc les faits de la résurrection sont certains. Il s'agit d'un événement historique dont des centaines de personnes ont témoigné. Et beaucoup de grandes religions du monde trouvent leurs racines dans l'histoire. L'islam et le bouddhisme, par exemple, ont été fondés par des personnages historiques. Pourtant, aucune de ces religions ne dépend de l'histoire. Mohammed est mort, et Bouddha aussi, mais leur religion demeure intacte. La fondation du christianisme, par contre, c'est l'histoire. Il ne s'agit pas d'un système de moralité, mais une confiance dans des faits démontrables. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Alors, quelqu'un pourrait protester encore en disant qu'un tas d'événements extraordinaires ont eu lieu au cours de l'histoire. La construction des pyramides, le premier atterrissage sur la Lune ou l'invention du golf. Tous des événements historiques, mais qui n'ont aucun rapport avec nos vies quotidiennes. Donc, quelle est la signification de la résurrection? De quoi s'agit-il? C'est notre deuxième point. Sa signification est claire. La conséquence du péché est renversée. En tant que ville, Londres peut prêter à confusion. Je connais certains coins très bien. Je travaille dans la city. J'habite à Kennington. Je vais souvent à Hyde Park. Mais vu que je prends le métro, je ne sais pas comment ces endroits sont reliés en surface. Et la Bible est un peu comme Londres, en fait. Nous sortons la tête et nous nous trouvons face à 2 Samuel ou à l'Exode ou à l'Apocalypse. Et nous reconnaissons certains lieux célèbres. Mais comment les pièces s'emboîtent-elles? La Bible raconte une seule histoire dont le point culminant, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan par lequel on comprend le labyrinthe de Londres. Voyez le verset 3 et 4. Jésus est mort et ressuscité conformément aux Écritures. En d'autres termes, quand je lis les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les premiers 39 livres de la Bible, il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quelle histoire la Bible raconte-t-elle? L'histoire de la Bible commence à la création du monde. Dieu crée l'humanité pour vivre dans un monde parfait, sous son règne parfait. Mais l'humanité décide qu'elle préfère régner à la place de Dieu, et donc elle fomente une rébellion. C'est le plus grand de crimes de jamais commis. Donc Dieu punit l'humanité en maudissant les relations les uns avec les autres, la relation avec la création et la relation avec Dieu lui-même. Pour la première fois, la mort fait partie de la vie à cause de la rébellion de l'humanité, c'est-à-dire le péché. Mais bien que Dieu soit en colère contre l'humanité, il promet un personnage qui renversera les effets de la rébellion de l'humanité à son grand désavantage personnel. Ce personnage sera un être humain qui s'en prendra au mal et le battra. Et tout au long de la Bible, à partir de la Genèse, nous sommes à l'affût d'un tel personnage. Quelqu'un qui sauvera l'humanité du péché et de la mort. Mais ce n'est Noé, ni Moïse, ni David. Ils échouent tous comme leurs ancêtres. Mais un jour vient sur terre un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et contrairement à tous les autres êtres humains, il vit une vie parfaite, sans jamais pécher. Et il dit aux gens qu'il va mourir. C'est bizarre. Uniquement des pécheurs devaient mourir. Et donc, lorsque les Romains l'exécutent, ce n'est pas parce que c'est un brigand. Jésus-Christ meurt, comme dit le verset 3, pour nos péchés. Jésus-Christ paye le prix de notre péché, ce qui est la mort, en mourant lui-même. Il boit la coupe de la mort et la flanque par terre en disant « Tout est accompli » et il ressuscite 3 jours après. Donc, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Et si tu es un être humain, c'est ton histoire aussi. Seulement la Bible peut donner un sens au monde brisé dans lequel nous vivons. Seulement la Bible offre de l'espoir concret pour l'humanité à la dérive. La mort et la rébellion ont été renversées par Jésus-Christ. Ceci est la signification de la résurrection. Elle est claire d'après l'histoire de la Bible. Et donc, j'espère que cela nous permet de voir, troisièmement, que la résurrection de Jésus change tout. La citation de Stephen Fry continue ainsi. « La mort est un passage naturel de la vie. Nous pouvons nous concentrer sur le but et le sens de la vie aujourd'hui et maintenant, en profitant de la seule vie que nous savons que nous avons, et en aidant les autres à en faire le même. Quand nous mourrons, nous demeurerons dans le travail que nous avons fait, dans les souvenirs des gens que nous avons connus. » Nos corps se décomposeront et feront partie du cycle de la nature. les atomes qui nous forment maintenant deviendront d'autres choses, des arbres, des oiseaux, des fleurs et des papillons. Il dit que nos vies ne sont significatives que parce que nous mourons. La mort nous donne quelque chose à poursuivre avant que nos corps se décomposent et que nous devenions des papillons. C'est encourageant, n'est-ce pas? Certes, la mort fait que nous sommes très occupés. Mais d'après Paul, qui a écrit en Corinthiens, la mort n'accorde pas d'importance à la vie. Au contraire, elle la rend inutile ou vide, comme disent les versets 2, 10 et 14. La mort rend la vie inutile. Elle nous dépossède de tout ce que nous avons fait. Elle nous dépouille de tout ce qui nous est cher. Et beaucoup de gens pensent de la même manière que Stephen Fry, qu'ils soient athées ou non. La mort est la fin de la vie, donc je vivrai pleinement pour ma vie en créant mon propre sens et en cherchant autant de plaisir que possible. Et les chrétiens corinthiens pensaient comme ça aussi. Leur devise de vie n'est pas finalement si loin que celle qui a été adoptée par beaucoup de nos jours. Ça se trouve au verset 34. Peut-être vous connaissez. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Mais quel était leur problème, ces Corinthiens? Ils ne croyaient pas vraiment à la résurrection des morts. Voyez le verset 12. Paul dit, « Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» En ne pas croyant à la résurrection des morts, future et corporelle, ils vivaient pour le présent, écoutant la voix de leur culture. Ce n'est pas pour dire que les Corinthiens ne croyaient pas du tout à une existence après la mort, mais ils n'étaient pas prêts à croire à une existence physique. Et Paul dit que leur pensée est incohérente. Après tout, ils croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Paul n'écrit pas sa lettre aux Corinthiens pour les convaincre des choses qu'ils croient déjà, mais plutôt il voudrait rétablir un terrain d'entente. Donc, que nous soyons chrétiens ou pas, Paul veut nous montrer que la résurrection de Jésus change tout. Il y a eu un homme qui n'est pas resté mort. La résurrection est maintenant une réalité. Donc, notre athée britannique Stephen Fry a-t-il raison? Est-ce que la mort donne un sens à la vie? Au contraire, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui rend la vie significative. Voilà pourquoi Paul dit au verset 3, « Je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'avais reçu. » Donc, si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus, quelles sont les implications pour nous? Permettez-moi de nous en donner deux. Premièrement, il n'y a pas de contenu. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez les versets 12 à 14. Paul dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Jésus ressuscité a chargé Paul de proclamer la bonne nouvelle qu'il y a une vie après la mort, parce que Jésus lui-même est ressuscité. Et les chrétiens eux aussi sont des personnes qui désirent ardemment de faire connaître cette bonne nouvelle. Pourtant, si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile. Je perds mon temps en parlant aujourd'hui et vous perdez le vôtre en m'écoutant. Le livre n'est un livre de contes de fées, à moins que ce soit ce que vous pensiez. Si vous êtes chrétien, croyez-vous que vos mots contiennent du pouvoir de résurrection? C'était le cas pour Paul. Sa rencontre avec Christ ressuscité l'avait transformé de persécuteur meurtrier en disciple de Jésus. Verset 10. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, parce que Paul proclamait un Jésus ressuscité, cela apportait la vie ressuscitée spirituellement dans ceux qui avaient entendu son message. Verset 11. Voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Les chrétiens ne devraient pas se disputer. Ils proclament un Jésus qui est vivant, et en parlant, Dieu œuvre à travers les paroles pour apporter la vie nouvelle. Est-ce que nous avons cette vision de la proclamation? Deuxièmement, il n'y a pas de consolation si on ne croit pas à la résurrection de Jésus. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, un grand changement a lieu dans son cœur. Pourtant, les chrétiens ou les gens, ils meurent. La mort est toujours une réalité. Les chrétiens attendent un salut à l'avenir. Ou bien comme Paul dit au verset 2, « Vous êtes sauvés ». Et nous verrons dans 3 semaines que l'espoir ultime des chrétiens, c'est qu'après la mort, Jésus leur donnera un nouveau corps physique pour habiter un nouveau monde physique. Pour un chrétien, la mort n'est simplement qu'une passerelle au monde futur. Mais comment savons-nous que c'est vrai? Jésus-Christ est ressuscité dans un corps physique. Donc, ne pas croire à la résurrection des morts, c'est dire que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, verset 13. Nier la résurrection de Jésus supprime la possibilité de la résurrection pour nous. Et si Jésus n'est pas ressuscité, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés, verset 17. Je dois payer le prix pour ma culpabilité, ma propre culpabilité, moi-même. Une tâche impossible. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas quelqu'un pour payer le prix pour moi, pour mon péché, la mort sera donc la fin. Le chrétien mourra en faisant confiance à de faux espoirs. Il serait, comme dit le verset 19, le plus à plaindre de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profité de cette vie-ci. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de consolation dans cette vie-ci et il n'y a pas d'espoir pour la suivante. Mais voyez le début du verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Le message de Jésus-Christ crucifié et ressuscité est historique et factuel. On a vu que sa signification est claire et donc il devrait bouleverser notre vie. Les Corinthiens commençaient à laisser filer ce message. Ils préféraient leur culture à Christ. Donc pour conclure, est-ce que je peux vous demander pour quel avenir vivez-vous? Est-ce que vous vivez pour des plaisirs fugaces? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre ces choses plus au sérieux? Ne soyons pas comme des Corinthiens qui ne croient pas à la résurrection, qui vivent pour le présent. Ces choses sont importantes avant tout. Ne laissons pas aller le seul espoir que nous avons. Verset 2, tenons ferme à ce message. Prions. Merci Seigneur pour la certitude que nous avons dans l'Évangile grâce à la résurrection de Jésus. Merci pour la délivrance du péché, la mort que tu as obtenue pour nous à la croix. Et on te prie que cette bonne nouvelle puisse bouleverser notre vie et que tu nous remplis d'espoir. Au nom de Jésus. Amen.